RCF.
Très belle soirée à l'écoute d'RCF, 18h10, comme dirait notre ami Alexis, on est large ce soir, on le retrouve pour le 18-19 régional.
Très très large Fabrice Gironet, 18h10 passé de 30 secondes et on va retrouver d'ici quelques instants Jean-Pierre Benoît à nos côtés dans ses studios de RCF Reims-Ardennes. On est ensemble sur RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes et on vous accompagne jusque 19h avec ce magazine dans toute la Champagne-Ardenne. Gérard-Marie Henry est déjà bien en place pour sa chronique économie. Bonsoir Gérard-Marie.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tout le monde.
De quoi nous parlerez-vous ce soir ?
Un petit peu une histoire chinoise, une histoire un petit peu embarrassante qu'on espère que ça va s'arranger. Un géant immobilier.
On a hâte d'en savoir plus sur ce géant immobilier. Evergrande, c'est la société dont vous nous parlerez quelque part.
Tout à fait.
Le programme de ce magazine régional, c'est aussi le festival Rencontre Instant Nature du côté de Bouvancourt dans la Marne. François Bock est un des co-organisateurs, il nous présentera cet événement. On sera avec Paul Bruno pour nous présenter la Messe des Malades. C'est mercredi prochain dans le diocèse de Reims et des Ardennes. Il en est le responsable du service évangélique des malades. On s'intéressera aussi à la fête du timbre avec Patrice Michelet. Et puis on entendra de Sixtine Mercier qui a fait des rencontres de jeunes, notamment des rencontres du côté de Tahiti. C'est assez surprenant. Mais voilà des élèves qui ont fait leur rentrée l'an dernier à Reims et qui cette année font leur rentrée à Tahiti. C'est quand même un autre décor, Gérard-Marie.
Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ça le dépaysement.
C'est ça le dépaysement. Vous étiez du côté de Londres la semaine dernière, c'était pas mal non plus.
C'était pas mal, oui. En fait, Londres est assez dynamique. Ça ne représente pas vraiment la Grande-Bretagne, mais une activité qui semble revenue à la normale en apparence.
L'Angleterre sous Covid, tout va bien.
Tout va bien, même s'ils ont eu par 100 000 habitants plus de décès que les Français.
Hein. C'est vrai qu'on en a parlé, c'était l'objet d'une des chroniques récemment, Chronique Écho. Gérard-Marie, 18h12, ce que je vous propose c'est de s'intéresser au sujet du jour et comme cette émission est rediffusée dans d'autres cadres, je vais même vous resaluer. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour Alexis.
On s'intéresse aujourd'hui à un géant immobilier chinois, Evergrande. Trois choses à savoir déjà sur ce géant immobilier dans la tourmente.
Oui, alors dans la tourmente, parce que bon, c'est une entreprise qui a été créée en 1999, donc elle n'est pas toute récente, mais c'est une entreprise qui a surfé sur la politique du gouvernement chinois, qui était de dire, ben, vous construisez des immeubles, vous les vendez avant qu'ils ne soient terminés, vous récupérez l'argent et vous empruntez, vous en construisez d'autres, et donc c'est une entreprise qui a grandi de façon assez dynamique. Mais évidemment, avec un endettement, puisque à chaque fois, elle empruntait pour faire de nouveaux sites, etc. Elle est sur à peu près 3000 villes chinoises. Un endettement extrêmement important. Et maintenant, le gouvernement chinois, depuis deux mois, bah, s'inquiète justement de l'endettement de certaines entreprises. Des entreprises qui ne vont pas pouvoir rembourser ce qu'elles devaient. Et donc, on a une petite inquiétude parce que cette entreprise, elle est quand même extrêmement importante. Elle représente à peu près 4% du produit intérieur brut chinois. Et donc, si elle avait des difficultés, bah, y aurait un choc sur l'économie chinoise. Or, l'économie chinoise, dans l'économie mondiale, c'est une énorme chose. Et donc, on a des bourses qui ne sont pas chinoises, hein, qui ont complètement baissé à cause de cette inquiétude sur cette société.
Gérard-Marie, c'est tout de même le deuxième promoteur immobilier de Chine qui est inquiété. Quand on en arrive là, on se pose des questions sur l'économie.
Oui, mais justement, donc on regarde après les autres entreprises chinoises et on s'aperçoit qu'elles ont elles aussi des dettes extrêmement importantes, des dettes qu'elles ne peuvent pas forcément assurer. Et donc il y a une inquiétude plus large que cette entreprise en fait, hein, donc une inquiétude sur cette société d'endettement qui est devenue la société chinoise et que le gouvernement chinois n'a plus envie de tolérer et qui aimerait bien arriver à faire passer l'histoire tranquillement sans qu'il y ait faillite, sans qu'il y ait destruction de l'emploi, puisque cette entreprise en fait elle embauche indirectement à peu près 4 millions de personnes.
Alors justement, les Chinois, ils sont quelque part condamnés, entre guillemets, à réagir.
Donc la Banque centrale chinoise injecte, enfin elle fait ce qu'on a fait au moment de Lehman Brothers, elle injecte des liquidités dans l'économie pour que le crédit soit plus facile. Le gouvernement interdit aux gens de protester contre le risque de faillite de cette société. Donc sur les réseaux sociaux, bah, chaque fois qu'il y a une vidéo où on voit des gens qui disent « j'aimerais bien avoir mon argent », cette vidéo, elle disparaît immédiatement. Et on suppose que le gouvernement chinois va faire en sorte que cette entreprise puisse quand même payer un petit peu ce qu'elle doit. En particulier ce soir, elle devrait avoir à rembourser non pas des choses en yuan, en monnaie chinoise, mais des choses en dollars, puisque c'est une entreprise qui a emprunté sur le marché international.
Mais à un moment donné, quand on a emprunté, il faut rembourser derrière, faut rembourser et avec les intérêts souvent.
Avec les intérêts, et donc c'est une entreprise qui, pour s'en sortir, est en train de se séparer de toute une série d'actifs. C'est une entreprise immobilière, mais qui avait une société qui construisait soi-disant des voitures électriques. Il n'y en a jamais une qui est sortie, mais elle revend cette société pour récupérer de l'argent, pour pouvoir rembourser ce qu'elle doit. Vous voyez, quelque chose d'assez inquiétant et qui a secoué les bourses jusqu'à à peu près hier soir, où on a appris que cette société Evergrande avait réussi à convaincre un certain nombre de détenteurs d'obligations d'accepter de reporter le remboursement jusqu'en 2025. Au lieu d'avoir à les rembourser tout de suite, donc ils gagnent 4 ans et donc ils peuvent s'en sortir un petit peu. Et si on généralise ce mécanisme, on peut supposer qu'il n'y aura pas trop d'effets. Mais c'est quand même intéressant comme système.
Vous le dites, Gérard-Marie Henry, pas trop d'effets. Est-ce qu'on peut supposer que la connexion entre les marchés financiers chinois et les autres marchés, finalement, est moins grande que ce que l'on peut supposer, finalement?
Tout à fait, tout à fait. En fait, dans la dette de cette société, la partie internationale est relativement faible. Donc quelques pourcents seulement, parce que le marché chinois continue à être un marché fermé aux investisseurs étrangers. Donc c'est simplement par l'intermédiaire d'Hong Kong que cette société a emprunté sur les marchés internationaux. Mais en fait, si on regarde, on n'a pas tellement d'effet. C'est pour ça que cette excitation assez forte des marchés financiers, le CAC 40 a reculé 3% à cause de cette histoire chinoise, alors que ça n'a rien à voir avec l'économie française. Donc c'est ça qui est quand même intéressant, quoi.
On a retrouvé Jean-Pierre Benoît, je suis sûr qu'il y a une question économique qui lui passe par la tête.
Non, parce que je vois que c'est très technique. Mais Gérard-Marie, vous savez rendre les choses compliquées, vous les rendez simples. Rappelons quand même que vous êtes professeur d'économie, que vous avez été... Ah mais si, mais vous êtes trop modeste, vous dites toujours non, je fais rien, vous avez fait des bouquins, etc. Et là, le thème, c'était bien la Chine.
Tout à fait. Evergrande, cette société immobilière.
Cette société immobilière, donc, qui est pratiquement en situation de faillite. Que le gouvernement chinois ne veut pas qu'elle tombe en faillite, mais il aimerait bien faire un exemple, en fait, pour les autres sociétés chinoises qui sont très endettées, en leur disant « n'exagérez pas ». Vous voyez, il y a eu depuis 6 mois à peu près un changement dans la politique du gouvernement chinois, où avant on disait aux entreprises « allez-y, il faut faire de la croissance, il faut repartir, etc. » Et là, ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de créer un système qui est extrêmement déséquilibré. Donc, ils choisissent quelques entreprises comme cible pour dire aux autres « attention, ne faites pas comme eux, vous allez voir, ça va être très dur ». Et cette société donc va être obligée de se séparer de toute une série de ce qu'elle, de ce qu'elle détient pour pouvoir rembourser et peut-être se sauver avec ses 300 000 employés.
Mais la Chine est quand même quelque part entre deux chaises, entre ce grand groupe qui, si forcément il va couler, ça va être dommageable, et en même temps vouloir faire cet exemple de ne pas vouloir réinjecter de l'argent.
Donc c'est ce qu'on va voir dans les semaines qui viennent. Mais jusqu'à présent, la Banque centrale chinoise donc a assoupli sa politique monétaire pour aider à la fois ce groupe et les autres entreprises chinoises qui sont très fortement endettées. Donc on voit bien que le gouvernement chinois n'a pas envie qu'il y ait une catastrophe, que ce soit Lehman Brothers comme en 2008, puisque c'est un petit peu le scénario que tout le monde a raconté. Mais on va avoir quand même quelque chose qui aura un impact sur la croissance chinoise dans les années suivantes.
Je vais vous poser une question du néophyte. Je connais un peu ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais vraiment, il a besoin de cours. Hein.
Oui.
Parce que c'est vrai que dans l'opinion, on se dit le régime chinois est un régime communiste.
Oui.
Et puis vous nous parlez de banque centrale,
oui,
qui travaille avec le marché international.
Oui.
Il n'y a pas quand même un peu d'incompatibilité?
Non. C'est très bonne question, tu vois, une question naïve. Très bonne question naïve, Jean-Pierre, mais qui est excellente. C'est-à-dire la Chine, régime communiste dictatorial avec parti unique, etc., mais qui a compris, grâce à Deng Xiaoping, donc à peu près vers 1990, qu'il fallait adopter les techniques de l'économie de marché, ce que nous utilisons, pour pouvoir être une économie dynamique. Donc je raconte très vite l'histoire. Hein, quand les communistes sont arrivés au pouvoir en 1949, à Shanghai, il y avait une bourse et ils ont trucidé tous les boursiers. Puis en 1990, ils ont rouvert la bourse de Shanghai pour qu'elle puisse financer les entreprises chinoises.
Il y a un double discours, alors.
Non, c'est vraiment...
C'est le même.
Oui, c'est absolument le même.
Ils sont forts. Hein.
Non, ils sont très forts. Mais d'un côté, donc, vous avez le parti unique qui conduit l'économie. De l'autre côté, vous avez l'économie de marché qui va permettre à cette économie d'être dynamique. Et puis le troisième truc, c'est Xi Jinping est en train de faire en disant il faut que les riches redistribuent un petit peu. Donc c'est pour ça on n'a pas vraiment le temps de
raconter. On n'a pas vraiment le temps, mais c'est un bon sujet, ça. Hein.
C'est un très bon sujet. Donc on a une voie chinoise assez extraordinaire qui est de concilier une croissance dynamique un petit peu capitaliste, bien sûr, mais en faisant en sorte que ces capitalistes ne deviennent pas trop riches. Et c'est pour ça qu'on a l'histoire d'Evergrande.
Eh bien, merci Gérard-Marie Henry de nous avoir éclairé sur ce géant immobilier chinois. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique éco. À bientôt.
À bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h21 sur RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, Jean-Pierre Benoît, vous le voyez, on a un nouvel invité avec nous. Il est là, en studio.
Oui, je vois, oui.
François Bock est l'un des organisateurs du festival Rencontre Instant Nature qui aura lieu ce week-end à Bouvancourt. François Bock, bonjour.
Bonjour.
Vous nous présentez aujourd'hui cet événement, le festival Rencontre Instant Nature de Bouvancourt 51. C'est la 7e édition. De quoi s'agit-il, François Bock?
Il s'agit d'un grand festival de photos nature, paysages, flore, animaliers, avec cette fois-ci 21 photographes et environ 300 photos.
Une édition assez particulière qui se passe du côté de Bouvancourt. Peut-être tout de suite pour localiser l'endroit. Où ça se situe, Bouvancourt?
Si vous voulez, ça se situe pas loin d'Hermonville, Pévy, Muison, Joncherie.
On a une petite vingtaine de kilomètres de Reims.
Une toute petite vingtaine de kilomètres de Reims pour aller voir une région qui est très jolie et qui est très, très vallonnée. C'est surprenant, 20 kilomètres de Reims.
Une région que l'on découvre en vrai et que l'on découvre aussi à travers ce festival photo, nature, faune, paysage, flore, etc.
On la découvre comme ça. Surtout, le principe de notre festival, c'est une itinérance dans le village. La particularité de cette exposition, c'est d'exposer dans des sites comme l'église ou la mairie, mais aussi d'être accueilli par des habitants.
Ça veut dire qu'il y a du lien qui va se créer avec les locaux de l'étape, si j'ose dire?
Les locaux, souvent, ils sont là, ils accueillent. Ils ne sont pas toujours présents parce qu'ils laissent la place aux photographes, mais c'est avec plaisir qu'ils nous accueillent.
Une organisation organisée le week-end du 25 et 26 septembre, sur deux jours, 10h-19h, le village Bouvancourt est ouvert pour cette exposition.
Le village est ouvert, il y aura des points d'accès parce que pandémie oblige, il y aura, là je suis obligé de le préciser, il y aura un contrôle des passes qui nous est imposé par la réglementation actuelle, mais le village sera ouvert, on mettra un petit bracelet aux gens qui auront répondu, qui seront conformes à la réglementation et pourront se promener pendant deux jours.
Que va-t-on retrouver de fait pendant ces deux jours, le temps d'un week-end dans le village de Bouvancourt?
Environ 21 photographes. On va voyager au Pérou, on va voyager en Irlande, on va faire des photos, voir des photos de papillons, des photos de fleurs, des photos de bouquetins dans les parcs des écrins. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même une photographe, Florence, qui elle a un univers un peu onirique. Le thème, c'est la plume, avec des flous, des lumières, c'est de la nature.
Alors, vous l'avez dit, 21 photographes qui vont exposer et les différentes expositions vont être éparpillées un petit peu partout dans le village pour amener de la gaieté à chaque coin du village.
Si voilà, il y a 7 sites d'exposition différents avec des noms. Par exemple, il y a Jardin du Curé, il y a les Écuries Saint-Fiacre, la Maison Bleue, la Maison Hulot. On a donné des noms qui correspondent à une histoire de ces maisons, justement, ou un visuel de ces maisons. Et les habitants ont accepté qu'on les appelle comme ça et ça permet de se promener. Ils sont dispersés dans tout le village.
François Bock, cette 7e édition du festival Rencontre Instant Nature de Bouvancourt 51, c'est une édition particulière puisque son fondateur est décédé l'année dernière et il va y avoir une sorte d'hommage qui lui est rendu, et d'ailleurs qui est aussi rendu dans la communication au travers le petit flyer que vous avez édité.
Le premier hommage qu'on lui rend, c'est de lui consacrer notre visuel, l'affiche. Et on va lui mettre... On va lui mettre un espace qui va lui être dédié avec quelques photos que son épouse a bien voulu nous laisser, avec beaucoup d'émotion. Et pour nous, le but, c'était que le festival vive et continue à vivre après lui. C'était sa volonté et on va continuer à le faire vivre après.
Alors justement, aujourd'hui, François Bock, comment s'organise ce festival? Parce qu'il y a eu cette crise sanitaire que l'on traverse toujours, vous l'avez dit, passe sanitaire obligé pour venir les 25 et 26 septembre du côté de Bouvancourt assister à cette exposition. Comment ça s'est organisé aujourd'hui? Comment s'est construite l'équipe d'organisation dont vous faites partie?
L'équipe existe depuis quelques années maintenant. Et on a été obligé de se plier aux réglementations qui sont assez lourdes pour des bénévoles comme nous. On est bien aidé par la FGEP Nuison, on est surtout très aidé par le maire de Bouvancourt qui est très impliqué. Alors, il y a plein d'actions, disons, réglementaires qui ont été prises en charge par eux, mais à nous de mettre en place et de faire respecter ces réglementations.
Vous le dites, une équipe qui existe depuis plusieurs années, mais quand on arrive à la 7e édition, il y a parfois des arrivées, des départs, c'est des renouvellements aussi. Expliquer aux nouveaux comment fonctionne le festival et puis aussi peut-être que certains apportent de nouvelles idées, des idées qui germent.
Voilà, comme l'équipe est issue du club photo de la MGP Muson, tous les ans on a des nouveaux. Alors il y en a certains qui sont pas intéressés par la photo nature, on nous donne un coup de main quand même, et d'autres nous amènent des idées pour qu'on ferait pas ci, pour qu'on... Et ils amènent du sang frais.
François Bock, ce week-end du 25-26 septembre pour le festival Rencontre Instant Nature de Bouvancourt 51, on l'a dit, ça va être dans le village de Bouvancourt, plusieurs sites, etc. Est-ce qu'il y a aussi des temps forts peut-être qui sont prévus avec la possibilité de rencontrer certains des artistes photographes qui seront présents pour échanger avec leurs photos qui seront exposées, ce genre de choses ?
Les temps forts seront en permanence. Il y aura pas de, exceptionnellement à cause de la pandémie, pas de conférences, c'était trop difficile à mettre en place. Mais comme d'habitude, tous les photographes sont présents à l'exposition et sont très ouverts à la discussion. On peut leur poser autant de questions. Moi-même, je suis présent parce que je suis aussi exposant et on échange énormément. On est là pour ça. Nos photos, pour beaucoup de personnes, restent dans les disques durs. Personne ne les voit. Nous, on veut les montrer. On veut montrer ce qu'on sait faire. On veut partager notre passion.
Vous-même, François Bock, qu'est-ce que vous exposerez durant ce week-end ?
Je vais exposer des bouquetins du massif des Écrins après avoir une randonnée dans la neige un peu fatigante.
Effectivement, on imagine que prendre la photo, ça demande aussi savoir prendre du temps, savoir donner de sa personne pour être parfois dans des endroits un petit peu insolites.
Ah, si on veut être, ah, bien sûr, il faut chercher les endroits que des lumières, faut chercher des horaires, des fois un peu difficiles, faut chercher des lieux qu'on ne connaît pas trop, et pour certains photographes comme moi qui sont pas très sportifs, faut se faire un peu violence pour aller trouver des sites en montagne un peu difficiles.
Alors, il y a quelque chose que l'on n'a pas précisé, mais qui est très important pour nos auditeurs, c'est dire que ces deux week-ends, ces deux jours, 25-26 septembre, 10h, 19h, l'entrée est gratuite.
Entièrement gratuite. Si quelqu'un veut acheter des photos à un photographe, ça sera avec plaisir que ce photographe lui vendra des photos qui sont des photos numérotées et qui ne sont pas des grandes séries. Donc, ça sera la photo, il n'y en aura pas 50. C'est le principe, nous, notre plaisir, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de partager notre passion.
Un partage qui va se faire aussi, comme on le disait il y a quelques instants, avec la rencontre qui va se faire avec les visiteurs qui pourront vous poser des questions, qui pourront peut-être aussi apprendre certaines techniques finalement de photographie, ce genre de choses.
On peut leur expliquer tout ce que l'on peut leur expliquer dans une exposition, mais en plus, si ils sont très tentés de développer la photo, on les accueillera, nous, avec plaisir, au Club Photo de Muson.
Ça veut dire que le Club Photo de Muson a aussi besoin quelque part de se renforcer, de nouveaux adhérents?
Encore plus maintenant, parce que l'année a été très difficile pour les FGEP. Et plus il y a d'adhérents, nous, tous les ans, on a des nouveaux, des gens qui partent. Et c'est avec plaisir qu'on peut accueillir des photographes expérimentés qui amèneront leur expérience. Mais on accueille aussi des photographes débutants à qui on va montrer le cadrage, comment fonctionne l'appareil. Et là, on est aussi très ouvert à ceci. C'est le principe d'un club.
François Bock, ce sont combien de bénévoles qui sont sur le pont pour ce week-end du 25-26 septembre pour organiser le festival Rencontre Instant Nature de Bouvancourt ?
Une dizaine de FGEP Muson, plus certains habitants et les associations de Bouvancourt qui travaillent avec nous cette fois-ci, le maire de Bouvancourt, le conseiller municipal qui nous a aidé beaucoup. Donc ça fait 20-25 personnes qui travaillent sur cette manifestation.
Toute une équipe sur le pont pour organiser cette manifestation. Le rendez-vous, c'est entre 10h et 19h, les 25 et 26 septembre. Entrée gratuite pour le festival Rencontre Instant Nature de Bouvancourt. Passe sanitaire obligatoire. Un grand merci, François Bock, d'être passé par les studios de RCF. Vous faites partie du groupe d'organisation de cet événement. On vous souhaite à toute l'équipe une franche réussite et du beau temps.
Merci de m'avoir invité et bienvenue à tout le monde à Bouvancourt.
Eh bien, oui, on écoute les conseils de Christophe Bock qui était avec nous. Il s'appelle pas Christophe.
François Bock.
C'est François Bock, bien sûr. On l'accueille fréquemment. Mais on regarde l'horloge avec qu'on signale deux invités qui nous viennent de Châlons-en-Champagne et qui voient un peu comment on fonctionne le soir dans notre 18-19. On vous salue, hein, Madame Grune et son ami qui sont là ce soir. Quant à nous, on est bien sûr les yeux rivés sur la pendule. 18h30, le journal régional avec Alexis Claudrette.
RCF, le journal.
Les titres de ce journal, changement de nom pour le collège de Vitry-le-François du Vieux-Port, rebaptisé collège Gisèle Probst, une figure de la résistance dans la Marne, reportage. Les élèves méritants de l'Académie de Reims ont été mis à l'honneur le temps d'une cérémonie pour les féliciter et les récompenser. Retour sur ce moment.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Ce mercredi, en fin de matinée, a eu lieu la cérémonie qui a officialisé le changement de nom de collège du Vieux-Port de Vitry-le-François en collège Gisèle Probst sous la présidence de Florent Rochedy, adjoint à l'inspecteur d'académie. Résistante de Vitry-le-François, Gisèle Probst s'est éteinte le 25 avril 2019 à l'âge de 96 ans. Sur proposition de Françoise Arvois, présidente du comité Vitria de la Légion d'honneur, l'Assemblée départementale a délibéré fin décembre 2020 et le collège Gisèle Probst est né le 1er janvier 2021. Christian Brouillen, président du conseil départemental de la Marne.
Alors aujourd'hui, effectivement, on ne change pas le collège, mais le changement est tout de même d'importance. Il est essentiel même puisque on a changé le nom pour ce collège dit du Vieux-Port, lui donner le nom de Gisèle Probst, une figure, j'allais dire du Vitria, mais bien au-delà de la Marne et même au-delà de notre pays tout entier, au travers des valeurs qu'elle a portées, de l'histoire qui fut la sienne, mais surtout de sa volonté, de sa capacité à transmettre ce devoir de mémoire aux générations nouvelles, et notamment dans ce collège de Vitry-le-François.
Gisèle Probst, on rappelle qui c'était ?
Alors Gisèle Probst fut d'une grande résistante de la Seconde Guerre mondiale, et puis surtout qui, après son passage dans ce camp de la mort, ce camp de déportation de Ravensbrück, a tenu à transmettre son histoire, mais simplement pour faire en sorte que, au fil des générations, l'humanité devienne si possible meilleure. C'est ce à quoi elle aspirait, devienne meilleure au sens de la préservation des valeurs de la République et notamment de ses notions de liberté et de fraternité entre les peuples. Aujourd'hui, tout cela est parfois un peu mis à mal à l'échelle de la planète et c'est essentiel que les collégiens, avec leurs équipes éducatives, puissent s'appuyer pour faire un travail sur ces valeurs dans le collège parce que le fait de porter le nom de Gisèle Probst, forcément, ça portera à réfléchir et à se poser des questions. Et c'est ça qu'il faut toujours, se poser des questions pour mieux construire l'avenir. Sachez aussi que finalement, ce dont nous sommes fiers, c'est que au fil de ces dernières années, avec le collège d'Ailly qui a pris le nom d'Yvette Lindy, figure elle aussi de la résistance, le collège de Montmort l'an passé qui a pris le nom de Lucie Aubrac et aujourd'hui donc Gisèle Probst, on est assez fiers de donner des noms de la résistance, des noms féminins. C'est quelque chose dont on est assez fiers et je pense que ça aussi a du sens.
Christian Brouillen au micro de Gérald Gaillet. Le nouveau logo collège Gisèle Probst dessiné par un groupe d'élèves a été dévoilé devant la famille et les nombreuses personnalités présentes. L'Académie de Reims a récemment récompensé ses élèves méritants et plus particulièrement les bacheliers de la promotion 2021, méritants au titre d'obstacles qu'ils ont dû surmonter, d'un double parcours sportif ou culturel et scolaire, du micro-lycée, d'une cordée de la réussite, de leur engagement et de la citoyenneté, mais aussi les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats au baccalauréat dans les différentes voies technologiques, générales et professionnelles et le plus jeune bachelier de l'académie, un temps fort pour le recteur Olivier Branduit.
C'est un moment très symbolique, très important, et je remercie le président Gelé, se tient dans les locaux de l'université. Le baccalauréat, c'est le premier grade universitaire. C'est aussi un moment pour nous pour témoigner de l'articulation étroite, des liens d'estime et d'amitié également qui nous lient. Nos institutions, nos professeurs travaillent au quotidien ensemble. C'est un moment important, bien sûr, pour ces bacheliers méritants qu'on distingue. Ils ont soit obtenu des résultats exceptionnels, soit connu des scolarités au travers desquelles ils sont passés avec beaucoup de courage et d'ambition et de ténacité. Voilà, c'est un moment de célébration et je suis très heureux que 20 bacheliers de l'Académie de Reims aient pu bénéficier de ce moment de célébration, ce moment intense.
Moment émouvant pour les élèves récompensés, à l'image d'Émilie Gestenot qui a passé 3 ans au lycée Jean Jaurès de Reims.
Ben, c'est un grand mérite tout d'abord et c'est vraiment une consécration de ces 3 années de lycée que j'ai effectuées et c'est un grand bonheur pour moi d'être présente ici. Ça fait vraiment très plaisir, c'est encore une fois méritant, mais je ne pense pas mériter plus que d'autres élèves d'être présente ici. J'ai simplement travaillé comme tous les autres élèves et je pense qu'on est tous autant méritants d'avoir eu notre baccalauréat.
Le président de l'université, Guillaume Gelé, était très heureux d'accueillir les nouveaux bacheliers dans l'enceinte de l'URCA pour cette cérémonie.
Alors moi, je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'accueillir ces bacheliers méritants et je suis aussi honoré qu'un nombre important d'entre eux aient choisi notre université pour poursuivre leurs études. Mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir, au nom de nos institutions, les encourager à poursuivre dans les efforts qu'ils ont accomplis dans des années qui sont des années extrêmement difficiles, hein, les 2 années que nous venons de passer, et leur dire que l'avenir leur est grandement ouvert. Voilà, donc c'est un moment de bonheur également.
Président de l'université Guillaume Gelé, qui sera notre invité du magazine régional mercredi prochain de 18h10 à 19h. Jean-Pierre, c'est vous qui avez préparé cet entretien avec le président qui arrivera mercredi prochain sur notre antenne. Quelles seront les thématiques abordées?
Eh bien, on reviendra bien sûr sur la rentrée scolaire universitaire plutôt. On reviendra sur les grandes priorités du président Guillaume Gelé. Et puis surtout, on pousse un ouf de soulagement parce que on sent que, pour l'instant, la crise sanitaire est un petit peu atténuée et que pour tous les étudiants, c'est la reprise des cours en présentiel. Et ça, croyez bien que le président de l'université était plutôt content aujourd'hui.
Voilà un beau teasing. On a hâte de retrouver Guillaume Gelé mercredi prochain. Du sport, pour finir ce journal, ça jouait sur différents terrains hier. En football, le Stade de Reims s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Lille et n'augmente pas son capital point qui reste bloqué à 7 unités en 7 journées. En basket, les Flammes Carolo disputaient leur premier match officiel de la saison. Elles se sont imposées en Slovaquie pour le match aller du tour préliminaire d'Eurocup Women, 75-62 sur le parquet de Piesanské Kašky. Vous me pardonnerez mon Slovaque Jean-Pierre. Et puis un tirage au sort aujourd'hui des 32e de finale de Coupe de France de basket. Le Champagne Basket, qui évolue en Betclic Elite, se déplacera à Lille, qui joue en Pro B. Le match sera le 20 octobre prochain. 18h37, ainsi se referme ce journal. Le magazine continue.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
À noter dans les agendas diocésains la visite à Rome de Mgr Éric de Moulin-Beaufort qui vient de partir et qui est accompagné de tous les présidents des conférences épiscopales d'Europe. Et puis la semaine prochaine, une visite ad limina des évêques de toutes les grandes régions, en particulier Mgr Touvet et Mgr Éric de Moulin-Beaufort à Rome une deuxième fois.
Jean-Pierre, vous restez avec nous dans cette émission. C'est l'heure de l'entretien avec Paul Bruno, responsable du service évangélique des malades pour le diocèse de Reims et des Ardennes.
Paul Bruno, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que si vous êtes là, c'est parce que dans quelques jours, plus précisément mercredi prochain, le 29 septembre à 14h30, à la Basilique Saint-Remy, mais aussi dans les Ardennes, on va y revenir, il y a une messe des malades. Pourquoi, Paul Bruno, cette messe des malades est si importante?
Alors effectivement, nous organisons pendant la neuvaine de Saint-Remy 2 messes, l'une à la Basilique Saint-Remy à Reims et l'autre à Charleville, là où hier, dans l'église de Sainte-Jeanne d'Arc, pour permettre aux personnes isolées d'avoir la possibilité d'assister ensemble à une messe et se retrouver réunis ici ou d'être unis en suivant la célébration grâce à RCF.
Combien de personnes sur ces 2 lieux?
Sur les 2 lieux, c'est environ 700 personnes qui seront présentes dans la moitié des malades ou handicapés, tous venant soit de chez eux, de leur maison de retraite ou de leur lieu d'habitation. Lorsque c'est possible, bien sûr.
Alors, des messes à Saint-Remy à Reims, à la Basilique Saint-Remy à 14h30 et à Sainte-Jeanne-d'Arc de la Houillère, toujours à 14h30, avec 2 célébrations différentes. Alors, à Saint-Remy d'abord?
Alors, à Saint-Remy, effectivement, c'est le père Thierry Bettler, notre vicaire général, qui présidera. Et à Sainte-Jeanne-d'Arc, c'est le père Pascal Bardet qui va célébrer la messe.
Alors souvent, je me souviens, les autres années, est-ce que c'est aussi la question cette année, l'accompagnement des jeunes? Il y a des jeunes qui viennent vous aider pour cette messe des malades, Paul Bruno.
Tout à fait, leur présence est très importante. Pour la bonne organisation, nous aurons à Reims donc l'aide active des jeunes de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Leur présence est importante car pour ces jeunes, c'est donner un peu de son temps aux autres. Et pour les malades et les handicapés, c'est recevoir de l'attention et de l'écoute.
Alors que font ces jeunes sur place?
Alors ces jeunes, ils placent les personnes, ils distribuent les feuilles de messe, ils recueillent les intentions de prière, et à l'issue de ces messes, ils se chargent de les raccompagner vers les transports spécialisés.
À chaque fois, vous dites possibilité d'échange, de rencontre intergénérationnelle, comme on dit aujourd'hui.
Tout à fait, et vous savez que à l'issue de ces messes, dans les semaines qui suivent, souvent les personnes âgées nous en parlent, tellement elles ont été marquées par ces rencontres.
Alors les jeunes de Saint-Joseph ne sont pas là cette année, mais l'an prochain ?
Absolument.
Donc c'est les jeunes de Saint-Jean-Baptiste. Il faut que ça tourne, comme on dit. Hein.
Exactement.
Pas toujours les mêmes. Alors avec nous, Paul Bruno, responsable diocésain du service évangélique des malades, c'est l'occasion de parler de ce service évangélique des malades. Dans votre jargon, vous dites le SEM, service évangélique des malades. Alors qu'est-ce que le SEM sur le diocèse de Reims et des Ardennes ?
Alors le SEM, c'est en fait 250 personnes sur le diocèse qui visitent les personnes isolées, qui ne peuvent plus se rendre dans nos églises. Ces personnes visitées sont soit à domicile, soit dans les maisons de retraite privées. Et le nombre de personnes visitées sur le diocèse est important, puisqu'il est estimé aujourd'hui à plus de 2000 personnes. Alors pour les maisons de retraite qui dépendent du CHU, ce sont des équipes d'aumôniers qui visitent. Alors ces derniers, en fait, ont reçu une formation spécifique par rapport à leur lieu d'intervention. Il est important de savoir que pour la plupart de ces souffrants aussi, c'est grâce à la télévision qu'elles peuvent suivre la messe et être ainsi en lien avec leur espace missionnaire.
Alors plus précisément, Paul Bruno, vous venez de le dire à l'instant, mais on peut regarder d'un peu plus près, quelle est la situation au fond de ces personnes ?
Alors ce qu'on constate, c'est que les personnes âgées, handicapées ou souffrantes sont de plus en plus isolées pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, les enfants sont de plus en plus éloignés de leur lieu de naissance du fait de leur mariage ou de choix professionnels. De plus, il y a de moins en moins de commerces dans les villages et cela crée un sentiment d'isolement et d'insécurité. Et parallèlement à ça, l'isolement est aussi accentué, aussi bien en ville qu'à la campagne, du fait de l'augmentation des hospitalisations à domicile. Certes, il y a les visites des soignants, mais qui restent professionnelles et laissent peu de temps à l'écoute.
Alors, on rappelle donc le rendez-vous de mercredi prochain, le 29 septembre, Basilique Sarmi à 14h30. Nous retransmettrons d'ailleurs cette messe en direct sur RCF pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer mais qui vont suivre cette célébration. C'est avec le père Thierry Bettler, vous l'avez dit, le vicaire général du diocèse de Reims et qui participe beaucoup en ce moment, vous le constatez, aux émissions de RCF. Et puis à Sainte-Jeanne d'Arc, à Charleville-Mézières, c'est donc le père Pascal Bardet qui célébrera la messe. Alors on revient avec vous sur la radio. Chaque fois, vous nous demandez, mais c'est, on le fait naturellement, hein, grâce à la radio, c'est vrai qu'on est en lien avec toutes ces personnes isolées, Paul Bruno. Et ça, vous aimez, je crois. Hein.
Absolument, parce que je crois que c'est important de tout mettre en œuvre pour que, justement, les personnes puissent, en fait, être en lien avec nous. Et on n'oublie pas, justement, que grâce à RCF, ceux qui peuvent nous joindre à la messe célébrée, à la messe dans les églises, peuvent l'écouter par RCF. Et nous remercions d'ailleurs vivement RCF pour leur fidélité dans leur accompagnement, car c'est tout au long de l'année que RCF est présent quand la pastorale de la santé sollicite l'équipe. Ainsi, cette tradition permet au maximum de personnes d'être en communication de prière.
Communion de prière, Paul Bruno, ça veut dire aussi, vous avez parlé de méditation, il y a une méditation tous les soirs sur RCF pour faire un peu famille diocésaine. Et les souffrants, les personnes isolées, ils font partie de cette famille diocésaine et peut-être modestement, il ne faut pas se prendre non plus pour Zorro, mais RCF peut aider simplement, hein, accompagner, voilà, pour que les gens se disent, on fait partie de cette famille diocésaine. Alors le service évangélique des malades, Paul Bruno, ça s'inscrit dans le projet diocésain missionnaire, je crois.
Tout à fait. Le service évangélique des malades s'inscrit complètement dans le projet diocésain autour de notre archevêque et de tous les acteurs engagés, qu'il ne faut pas oublier non plus. En ce sens, tous les membres du service évangélique des malades sont aussi les témoins de notre implication dans ce projet. Les besoins de bénévoles sont importants et variés en fonction de la disponibilité de chacun. C'est pourquoi je vous invite à vous renseigner auprès de la pastorale de la santé pour voir comment vous pouvez vous engager.
Et pour se renseigner, on vous joint directement, on joint la maison Saint-Sixte. C'est facile, on vous trouve sur Internet, Pastoral de la Santé.
Voilà, sur le site du diocèse.
Sur le site du diocèse. De toute façon, on y reviendra. Alors, au mois d'octobre, vous organisez une rencontre, vous avez organisé une rencontre dans chaque espace missionnaire.
Tout à fait. Donc, pour mieux faire connaître notre service, le bureau donc a organisé au mois d'octobre une rencontre dans chaque espace missionnaire, au cours desquelles nous aurons le matin le témoignage d'une communauté religieuse vivant dans l'espace, donc qui présentera sa mission. Et l'après-midi, nous partagerons avec tous ceux qui souhaitent mieux connaître notre service d'église. La date et le lieu de ces rencontres sont affichés dans les églises de votre espace ou sur le site du diocèse. À l'issue de la messe des malades, j'aurai le plaisir de présenter à Saint-Rémy celui qui va me remplacer à la tête du service évangélique des malades, Paul Hernevin, du Tardenois.
C'est un autre Paul alors, hein. Il y a Paul Bruno, Paul Hernevin, mais ça veut dire aussi que Paul Bruno, vous resterez bien entendu dans ce groupe du service évangélique des malades, et bienvenue donc à Paul Hernevin, que nous aurons le plaisir sans doute de rencontrer dans les prochaines semaines.
Tout à fait.
Merci Paul Bruno, on rappelle le rendez-vous, retransmission sur RCF pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, mais venez si vous pouvez à la Basilique Saint-Remy, parce que rien ne remplace cette communion, comme on dit, en présentiel aujourd'hui, vous savez, c'est un mot à la mode, à la Basilique Saint-Remy, 14h30, à l'église Sainte-Jeanne-d'Arc de la Houillère, 14h30, mercredi prochain.
Merci.
Le 18-19 sur RCF.
Et nous, désormais, on part sur la fête du timbre, 83e édition de cette fête nationale. Le rendez-vous, c'est ce week-end, samedi et dimanche, dans 80 villes de France. Et nous sommes ce soir avec Patrice Michelet, au micro de Gérald Gaillet.
Patrice, bonjour.
Bonjour.
Comment on devient administrateur ?
En général, on devient administrateur fédéral parce qu'on est aussi président du groupement régional. Et par principe, les présidents des groupements régionaux sont membres du conseil fédéral qui se réunit 3 fois par an.
Donc vous êtes également président du groupement philatélique régional Champagne-Ardennes. Les 4 départements ?
Les 4 départements de l'ex-Champagne-Ardennes, plus le département de Lyon, qui a choisi de venir avec nous plutôt que de se joindre à la région Bourgogne. Et puis il y a également l'arrondissement de Château-Thierry dans l'Aisne, qui est aussi membre de la Champagne-Ardennes philatélique.
Les fêtes du timbre, comment ça se passe ?
La fête du timbre, c'est une tradition dans notre fédération depuis 1938-39, bien sûr interrompue par la Seconde Guerre mondiale, mais depuis 1945. On peut dire qu'elle s'est organisée tous les ans, avec en moyenne une ville par département. Et dans la Marne, nous avons la chance encore aujourd'hui d'avoir, si je ne m'abuse, 5 clubs actifs membres de la fédération, ce qui fait que chacun son tour, tous les 5 ans, un des 5 clubs organise la fête du timbre. Et cette année, c'est le tour de l'association philatélique champenoise, basée à Châlons en Champagne. Et nous avons décidé de nous associer avec nos voisins de Vitry-le-François, le club philatélique de Courdemanche Vitry-le-François, et nous organiserons ensemble la fête du timbre à mi-chemin entre Châlons et Vitry, c'est-à-dire à la Chaussée-sur-Marne.
Quelque chose que l'on n'a pas donné, c'est la date.
Bien sûr, la date, ça sera donc le samedi 25 et le dimanche 26 septembre. De 10h à 18h, avec une pause déjeuner à midi, mais les visiteurs pourront quand même nous rendre visite. C'est ouvert toute la journée, de 10h à 18h. Et le dimanche, puisqu'il faudra démonter l'exposition, notamment ranger la salle, le bureau temporaire fermera à 17h au lieu de 18h.
Qu'est-ce que c'est qu'un bureau temporaire ?
Un bureau temporaire, c'est une convention qui est passée avec la Poste pour ouvrir un bureau de poste éphémère pendant une journée, 2 jours, quelquefois plus, pour que les collectionneurs viennent chercher les timbres qui sont édités ce jour-là et peut-être même, s'ils le désirent, faire oblitérer d'autres souvenirs philatéliques avec un timbre à date particulier qui, cette année, pour la fête du timbre, représentera l'automobile au cinéma.
Quels sont les timbres qui vont être édités à la Chaussée ?
Un premier timbre qui va représenter la Citroën Méhari des gendarmes de Saint-Tropez. Et puis un second timbre sous forme de bloc feuillet qui représente la 2 chevaux du film Le Corneau. 2 véhicules typiquement français et qui ont fait la légende de certains films avec des voitures au cinéma. Alors de manière générale, l'automobile au cinéma, il y a de nombreuses voitures légendaires, mais la Poste a choisi d'illustrer ces timbres par des véhicules typiquement français.
On parle de bureau de poste, on a peut-être une exposition de timbres.
Bien sûr, une exposition de timbres que nous avons essayé de varier. Bien sûr, on reste centré sur le thème de l'automobile. Il y aura plusieurs collections sur le thème de l'automobile. Il y aura aussi une petite collection sur le thème du cheval pour illustrer la participation des jeunes à la philatélie. Il y aura également une collection de marques postales anciennes où notamment les habitants de la Chaussée-sur-Marne pourront découvrir les premières marques postales de leur village. Et pour faire le lien avec l'automobile, il y aura aussi une petite exposition de modèles réduits, en particulier des Citroën.
Et autour de cette exposition de timbres ?
Également des produits locaux qui seront mis en vente par la ferme du Châtel.
Et je crois savoir qu'il y aura des jouets.
Oui, il y aura quelques jouets anciens, c'est encore à Calais avec le propriétaire de ces jouets qui les sort, on va dire avec parcimonie, parce que ce sont des objets de valeur. Il y aura effectivement quelques jouets anciens, voitures à pédales ou tricycles.
Je disais tout à l'heure, la fédération organise la fête du timbre au niveau national, donc on disait une par département. Et comment la fédération, elle, s'y retrouve dans cette opération ?
Alors la fédération qui, bien sûr, est propriétaire de la marque Fête du Timbre, fournit au club organisateur des enveloppes, des cartes postales, voire même des entiers postaux pour les spécialistes, qui sont mis en vente par les clubs pendant ces deux jours, accompagnés évidemment de timbres que nous achetons à la poste. La fédération nous laisse l'opportunité de créer ce qu'on appelle dans notre jargon une carte locale, c'est-à-dire c'est une carte postale supplémentaire qui est en lien direct avec le lieu où la manifestation se déroule. Donc cette année, nous avons choisi d'illustrer le village de la Chaussée-sur-Marne et notre graphiste préféré et membre de nos associations, Roland Irola, nous a réalisé un superbe dessin de la mairie de la Chaussée-sur-Marne. Ça sera donc le quatrième souvenir en vente sur lequel sera posé le timbre représentant la mairie.
Et oblitéré de la Chaussée-sur-Marne. Alors tout à l'heure, on parlait d'oblitération. La Chaussée-sur-Marne a un bureau de poste ?
Alors la Chaussée-sur-Marne a un bureau de poste. Alors comme ça se fait maintenant dans de nombreuses communes, ça a le logo de la poste, mais en réalité, c'est tenu par des employés de la mairie. Ça s'appelle l'agence postale communale.
Patrice Michelet, donc on disait tout à l'heure que vous étiez le président du groupement philatélique régional Champagne-Ardenne. En dehors de la Chaussée-sur-Marne, où sont organisées les fêtes du timbre dans votre groupement ?
Ben en fait, il y a un lieu dans chacun des 5 départements dont on a parlé tout à l'heure. On va commencer par les Ardennes. C'est le club de Raucourt qui organise la fête du timbre pour les Ardennes et ça se déroulera dans le village de Chémery-Chéhéry. Dans l'Aube, c'est l'association philatélique de Romilly qui a pris le relais et la manifestation sera organisée à Nogent-sur-Seine dans la salle Michel Barouin de 9h à 18h. Alors je ne vous rappelle pas les dates puisque ce sont les mêmes partout. Et pour le club philatélique de Romilly dans l'Aube, il y aura aussi une carte locale dessinée par Roland Irola. Ensuite, dans la Haute-Marne, alors c'est un seul club pour le département, c'est l'association philatélique Haut-Marnaise et la fête du timbre se déroulera à Chaumont à l'espace Bouchardon de 10h à 18h avec une carte locale dessinée par un des membres du club.
Les associations philatéliques n'organisent pas que la fête du timbre une fois tous les 5 ans.
Tous les 5 ans en ce qui concerne la Marne. Non, effectivement, les clubs philatéliques prennent parfois l'initiative de participer à des commémorations, voire s'associer à d'autres clubs pour organiser ce qu'on a appelé tout à l'heure des bureaux temporaires. Et à Châlons-en-Champagne, cette année, la municipalité fêtera le centenaire du choix du soldat inconnu américain, un événement assez peu connu à Châlons, qui s'est déroulé le 24 octobre 1921, où une délégation américaine est venue choisir parmi 4 cercueils anonymes le soldat qui repose désormais au cimetière d'Arlington. Donc à l'occasion de ce centenaire, l'APC éditera un certain nombre de souvenirs avec des timbres personnalisés représentant entre autres la veillée funèbre du soldat inconnu américain qui s'est déroulée le 24 octobre 1921. Bien sûr, comme de coutume depuis de nombreuses années, c'est notre ami Roland Irola qui a réalisé l'ensemble des supports, y compris les 2 timbres personnalisés.
Patrice Michelet, merci. Je rappelle que vous êtes administrateur de la Fédération française des associations philatéliques, président du groupement philatélique régional Champagne-Ardennes, président de l'association philatélique champenoise à Châlons-Champagne et co-organisateur de la fête du timbre de la Chaussée-sur-Marne. Alors, on se donne rendez-vous quand ?
Eh bien, on se donne rendez-vous le samedi 25 septembre ou bien le dimanche 26. Venez nombreux à la Chaussée-sur-Marne.
Patrice Michelet au micro de Gérald Gaillet, 18h55, dans ces dernières minutes, accrochez vos ceintures, soyez parés à décoller, on prend l'avion avec Sixtine Mercier dans Parole de Jeune.
Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Tiphaine et Thaïs, deux Rémoises parties vivre il y a 2 mois à Tahiti avec leur famille. Les filles, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Sixtine.
Tiphaine et Thaïs, vous étiez donc en première et en troisième l'année dernière à Reims. Aujourd'hui, vous êtes en terminale et en seconde à Tahiti. Après quelques heures de vol, est-ce que Thaïs, tu peux nous donner tes impressions ? Comment t'es-tu sentie quand tu es arrivée à Tahiti ?
Quand on est arrivée, on ressortait de 24 heures de vol d'avion assez bruyant à cause de bébé, etc. Donc on était un peu sous le choc, sonné en fait, complètement fatigué. Et puis on a été accueillis très chaleureusement par tous les Tahitiens. Et après, c'est vrai qu'on a eu un très bel accueil avec des colliers de fleurs. Donc ça réchauffait le cœur après être parti. C'était quand même agréable de voir qu'on était accueillis comme ça. C'était sympa. Et puis on est rentré chez nous. Donc on s'est pas complètement senti dépaysé. Donc ça, c'était quand même pas mal. C'est que en fait, je pense le lendemain, quand je me suis vraiment réveillée, etc., que j'ai vu un peu les différences, etc. Par exemple, les styles de maison, etc.
À peine arrivée, vous êtes déjà reconfinée. Est-ce que vous avez pu profiter un peu de la beauté de cette île, ou alors est-ce que vous êtes directement enfermée dans votre jardin, confinée ? Tiphaine, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors, on est arrivé vers début août, puisque la rentrée commence assez tôt en Polynésie. Elle commençait le 11 août. Donc, on a pu profiter de 2 semaines de vacances pour en découvrir un petit peu, pour faire des visites, pour aller nous baigner dans l'eau magnifique. Et ensuite, on a eu 2 semaines de cours où on a pu découvrir nos classes, l'école. Et on a été ensuite tout de suite confinés. Donc, on était un peu frustrés finalement de ne pas avoir pu continuer sur notre lancée.
À votre arrivée sur cette île, vous avez sans doute trouvé des choses peut-être étranges qui vous semblaient différentes de la France métropolitaine. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments qui changent et qui sont marquants pour vous à Tahiti ?
Alors en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas un point vraiment différent. Par exemple, en Polynésie, il y a beaucoup de coqs et de poules, parce qu'en fait ils ne les mangent pas, parce que la volaille ça mange les petits insectes, etc., qui pourraient être nuisibles pour les plantes. Je crois que c'est pour ça qu'ils ne les mangent pas. Mais donc il y en a beaucoup, et même ici à Papeete, donc c'est la ville principale, on a un bruit quasiment constant de coqs, de poules, de poussins, mais finalement maintenant on s'y est fait et puis on ne les entend plus. Autre chose, quand on arrive en Polynésie, on est accueilli par des bouquets de fleurs. Et quand on quitte la Polynésie, c'est un collier de coquillages qu'on nous donne.
Ensuite, il y a aussi un décalage assez important de 12 heures entre la France et ici. Ce qui fait que c'est assez compliqué pour appeler nos amis.
Autre chose, à l'école, l'ambiance à l'école est un peu différente. Par exemple, on a des gens qui jouent de la guitare ou du ukulélé dans la cour. Donc ça, c'est assez sympa. Sinon, la plupart des élèves tutoient les profs. Donc c'est un petit peu bizarre d'entendre « Madame, est-ce que tu pourrais venir m'expliquer ?»
En fait, toute la population ici tutoie tout le monde.
C'est un peu bizarre, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est bizarre.
Merci les filles pour tous ces éléments différents ou semblables à la France métropolitaine. Est-ce que, à la fin de votre séjour, donc dans 2 ans, normalement, est-ce que vous pensez que cette culture va vous manquer ?
Personnellement, je pense que la culture tahitienne va me manquer. Parce qu'en fait, elle est très présente ici. On sent que les gens sont fiers de leur culture et c'est vraiment très beau à voir. Avec les danses, une langue qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien, en tout cas. Et puis, les gens la parlent. Donc, c'est assez intéressant. Et vraiment, je trouve que ça apporte, en fait, de connaître une nouvelle culture comme ça. Donc, je pense qu'en repartant, elle va manquer. Mais c'est vrai que je serais quand même très contente de retrouver ma culture à moi.
Et puis, ce qui est assez beau c'est que bon, la tradition, la culture est vraiment ancrée dans les esprits. Et donc, on a l'impression qu'on est un petit peu dans une fête.
Donc, c'est vrai que ça va nous manquer.
Merci Tiffaine, merci Thaïs de nous avoir fait voyager à travers votre témoignage. Nous avons pu en savoir plus sur la culture tahitienne. Nous vous souhaitons un bon séjour en Polynésie française et à bientôt.
Ainsi se referme cette émission. Un grand merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Au revoir Jean-Pierre, à demain 18h10.
Au revoir Alexis, à demain.